RCF.
L'ASBL Namur Initiative Citoyenne continue à rechercher activement des témoignages sur la vie à Namur et la vie des Namurois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous souhaitez participer, rien de plus simple. Si vous avez internet, vous allez sur le site www.namurenguerre.be. Et pour nous contacter de manière traditionnelle, vous pouvez appeler le 0474 114 909, 0474 114 909, ou envoyer un courrier à ASBL Namur INC, rue Montcrabeau 6 à 5000 Namur, ASBL Namur INC, rue Montcrabeau 6 à 5000 Namur, et tout ça, vous le retrouvez aussi sur internet, www.namurenguerre.be. Cette semaine-ci, pas de témoignages puisque c'est les vacances de Noël, nous sommes en rediffusion, mais pour rester dans le thème, je vous propose une émission que j'avais enregistrée à l'automne dernier, c'était sur le rixisme à Namur.
Dans cette émission Le Bon Sens, on reçoit notre ami fidèle Richard Dessart. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du rixisme à Namur et vous avez appris bien des choses pour préparer cette chronique.
Eh oui. Et quand on entend Rex pour l'enfant des années 90 que je suis, les trois lettres, elles me font inévitablement penser au gentil chien flic. Je m'amusais à enregistrer sur VHS chacune de ses aventures. Une série que j'appréciais d'autant plus que le héros se prénommait Richard. Hein.
Comme vous.
Et voilà, et qu'à ce moment-là, en plus, on avait un berger allemand. Mais donc, c'est bien plus tard que j'ai commencé à associer Rex à ce terrible mouvement qui a pris place en Wallonie durant la Seconde Guerre mondiale. Lors de ma scolarité, j'ai pas souvenir que ce thème ait été abordé. Et d'ailleurs, hein, dans la plaque commémorative qu'il y a dans l'escalier de l'Athénée François Bovès à Namur, évoquait l'assassinat donc de François Bovès par l'ennemi, sans plus de précision. Rex n'était pas forcément évoqué. Via l'école, on n'en a pas forcément parlé. Et c'est grâce plutôt à des documentaires qui passaient sur la RTB que j'ai appris l'existence de ce mouvement rexiste. Et c'est en m'intéressant à l'histoire de Namur que j'ai su que c'était les rexistes, cet ennemi hein, qui a assassiné François Bovès le 1er février 1944. Et évidemment, en préparant cette chronique, j'ai aussi appris que les racines de ce mouvement ne se situaient pas forcément dans des zones ouvrières ou pauvres. Hein. C'est souvent à ça qu'on associe le populisme ou l'extrême droite. Et non, le rexisme, il prend ses bases dans les paisibles provinces de Luxembourg et de Namur. Tout ça pour dire qu'en Wallonie, il semble que le sujet, il n'a pas été très abordé, du moins pas à l'école. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale, Hitler, le nazisme, ils sont évidemment largement évoqués. Voilà, à chaque élection, les nationalistes sont victorieux en Flandre. On aime faire cette horrible équation, vais-je dire, flamand égale collabo. Mais pourtant, c'est assez bateau de dire ça. Mais aucun peuple n'est tout blanc ou tout noir. Et bien sûr, il y a eu des bons et des mauvais partout. Et la Wallonie n'est pas, comme on le croit trop souvent, exemple de tout défaut.
Mais alors, Richard, c'est quoi le rexisme?
Alors, le rexisme, au fait, c'est le nom qui a été donné à la politique, donc prônée par le parti politique Rex. Donc REX, hein, et on en appelle les partisans les rexistes. Alors brièvement, le parti rexiste, c'est un parti ni de droite ni de gauche qui prône un état corporatiste et un renouveau des valeurs morales catholiques. À vrai dire, les rexistes sont politiquement plus proches du fascisme italien de Mussolini que du national-socialisme d'Hitler qui était, lui, très anticlérical. D'ailleurs, l'Italie de Mussolini avait fortement financé le parti rexiste dans les années 1936-1937. Alors si on associe aujourd'hui le rexisme au nazisme, c'est tout simplement parce que dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement, alors en perte de vitesse, va collaborer avec l'occupant allemand et va même aller jusqu'à créer la Légion belge Wallonie qui deviendra la 28e division SS Wallonie.
Vous nous avez dit que ce mouvement a pris ses bases notamment dans le Namurois. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Eh bien, vous savez peut-être, mais voilà, Rex a été fondé par le malheureusement célèbre Léon de Grelle. Et bien sûr, tout s'est pas fait en un jour. Léon de Grelle, il est né en 1906 à Bouillon, dans une famille catholique pratiquante. Son père était d'ailleurs élu conseiller provincial de la province de Luxembourg. Alors, après avoir commencé ses études secondaires à Bouillon, il va rentrer à 15 ans à l'Institut Notre-Dame de la Paix à Namur. À l'époque, elle était encore gérée par les jésuites et l'institut est donc l'ancêtre des facultés, devenu officiellement Université de Namur en 2013. Et ben donc, tout comme on cite une enfance à Brno et une jeunesse à Vienne pour parler d'Hitler, ben pour Léon de Grelle, il s'agit d'une enfance à Bouillon et d'une jeunesse à Namur. Et personnellement, ben j'ai eu un peu de mal à concevoir ça, parce que voilà, souvent, ben on cherche dans les lieux de vie ce qui a pu pousser de tels personnages à devenir ainsi. Et on se dit, est-ce qu'on doit réfléchir, qu'est-ce qui a pu pousser, voilà, l'environnement namurois à faire devenir Léon de Grelle de la sorte. Enfin, c'est assez perturbant, je veux dire, de penser à ça. Mais à ce moment-là, en tout cas, le jeune Léon de Grelle, ben, c'est plutôt un garçon prometteur. À 15 ans déjà, il collabore de temps à autre avec dans des journaux. À 17 ans, il entretient une correspondance avec l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Mercier. Là, tous les enfants à 17 ans ne correspondent pas avec des cardinaux. Hein.
C'est quelque chose.
Voilà. Il a même réussi à se faire remarquer dans des milieux socialistes qui ont publié un de ses articles dans leur journal, le journal Le Peuple. Alors en 1924, après avoir réussi ses secondaires, il va s'inscrire à la faculté de droit. Il était plutôt actif dans la vie étudiante et il va rater son année. Il va ensuite partir pour l'Université catholique de Louvain. Et là aussi, hein, il délaisse ses études pour d'autres activités. Et en 1927, on va lui confier la direction du journal des étudiants de Louvain. En 1929, il va même être engagé au Petit Vingtième. Petit Vingtième, c'est le célèbre journal où sont apparues les aventures de Tintin. Hein. Et dans le fond, il se ressemble un peu à hein, deux jeunes garçons sans responsabilité qui collaborent pour des journaux. D'ailleurs, comme Tintin, bah, Léon de Grelle, il va faire des voyages aussi, notamment en Mexique et en Amérique du Nord pour appuyer sa pensée, pour appuyer ses articles. Et alors, bah, Rex, dans tout ça, bah, on va y arriver. Là, on est en 1930 et il va prendre la tête de la petite maison d'édition nommée Christus Rex, donc Christus Rex, le Christ roi, rebaptisé plus tard simplement Rex. Et si à la base, bah, il fait la promotion du parti catholique, bah, ça va vite changer. Et ainsi, bah, De Grelle va déclarer « Notre journal politique va y aller carrément. Nous servirons le parti catholique de toutes nos forces en le critiquant ou en l'encourageant, en attendant de le conquérir. » On voit qu'il y va fort. Hein. Et donc, bah, en juillet 1933, il va devenir propriétaire des éditions Rex. Et quelques mois avant, il va déclarer à ce moment-là « Rex est avant tout un mouvement, un organisme de combat. » Pendant que nous avons un idéal et qu'on voit que nous serons un jour les maîtres, nous rencontrerons des ennemis, d'abord naturellement des catholiques.
Il savait ce qu'il voulait et il était bien ancré dans ses décisions.
Il voyait très loin, voilà. Peut-être un peu mégalo sur les bords aussi.
Merci Richard, on fait une courte pause musicale et on se retrouve dans la deuxième partie.
Les images qui passent et qui laissent des traces sur nos écrans tous les soirs. Ces regards d'enfants qui voudrait seulement comprendre à quoi joue l'écran. Arrêtez les guerres, ôtez les œillères pour le mal que vous faites au monde à chaque seconde de guerre. Pour un bout de terre dont seul votre Dieu serait dernier propriétaire. J'ai peur de ces mecs qui jouent aux échecs, la fin du pouvoir au ventre, votant des budgets, jamais pour la paix, si elle n'a pas d'intérêt. Et ces militaires qui n'ont de nos vers qu'une vision totalitaire, qu'ils sachent que nos liens d'humain à humain sont plus forts que leurs.
Richard, dans cette deuxième partie, on continue à parler du rexisme à Namur. On a parlé ensemble de Léon de Grelle. Il était au niveau des éditions et il va passer de l'édition à la politique.
Voilà, on était resté en 1933 où il était devenu propriétaire des éditions Rex. Donc on est dans les années 30. Évidemment, les années 30, on le sait, la conjoncture n'est pas bonne. Déjà, la Première Guerre mondiale a fortement handicapé la Belgique qui se trouvait avant parmi les plus grandes puissances industrielles du globe. Et le crash de 1929, ben comme dans bien des pays, va rien arranger. Il faut savoir aussi que depuis 1919, le suffrage universel masculin est instauré. Et dès lors, ben le terreau pour cultiver le populisme, évidemment, est très fertile. Alors De Grelle, il l'a bien compris. Et c'est ainsi que pour les élections de 1936, mais il va fonder son parti qui ne portera ni plus ni moins que le nom de Rex. Voilà, le nom de sa maison d'édition. C'est un peu curieux, mais voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va remporter un beau succès. Il va avoir 21 sièges sur les 202 que compte alors la Chambre. Il fait évidemment une entrée remarquée. Mais il faut savoir qu'en même temps, on va noter aussi une belle hausse des nationalistes flamands et aussi des communistes. Et les trois partis traditionnels d'alors, donc catholiques, libéraux et socialistes, passeront ainsi de 90% au total en 32 à 78% en 36. Naturellement, ceux qui vont perdre le plus de plumes, c'est les catholiques au profit des rexistes.
Alors, vous allez nous expliquer où Léon de Grelle a décidé d'inaugurer sa campagne électorale de 1936.
Et oui, et là aussi, ça m'a surpris, j'étais bluffé en lisant ça. Donc, il a inauguré sa campagne électorale en 36, c'était le 25 février, et c'était la Bourse de commerce, ici, Place d'Armes à Namur. Voilà. Donc c'était un meeting où était présent une fanfare qui, après l'entrée de Léon de Grelle et l'ovation du public, a joué Libia Bouquet. Ça aussi, ça m'a paru totalement fou en lisant ça. Alors, dans son discours, il va notamment déclarer « Le peuple est désorienté. Dans une ville aussi pacifique que Namur, voyez la foule qui est venue pour nous entendre. » Et si je peux lui donner raison sur un point, c'est que voilà, ça me dépasse. Parce qu'on sait que les Namurois sont souvent prudents. Et voilà, ils ont quand même été attirés par ce mouvement populiste ayant entre autres comme slogan « Contre les pourris ». On voit que ça faisait pas dans la demi-mesure. Hein. C'était vraiment du populisme pur et dur. Quoi.
Tout à fait. Et puis Rex, c'était un parti qui se voulait aussi national.
Oui, c'est ça. Il a remporté que très peu de voix en Flandre, mais à la base, c'était un parti national. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur la Flandre. Hein. La première génération a voté. Il faut se dire que c'est une génération qui a connu le travail des enfants, des semaines où on travaille 7 jours, des jours où on travaille plus de 12 heures. Et évidemment, que dire des conditions de travail qu'il y avait à ce moment-là. Et d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas forcément su, c'est que si en Belgique le vote est obligatoire, c'était au fait pour être sûr que les patrons n'empêchent pas leurs employés de se rendre au bureau de vote.
Voilà. Ah oui.
Là, ça, on ne le sait pas forcément.
On ne le sait pas forcément.
Et ces dures conditions de travail, tous les Belges les ont attribuées aux bourgeois, à la bourgeoisie, hein, celle qui gérait les sociétés, les usines, etc. Des bourgeois qui tentent en Wallonie qu'en Flandre parlaient le français. Et cela a évidemment contribué à ce que le vote populaire flamand revendique des droits linguistiques et culturels, là où en Wallonie, la principale préoccupation était plutôt sociale. Donc voilà sans doute encore pourquoi en 2019, d'autres pays est encore divisé entre nationalistes flamands au nord et socialistes au sud. On voit que ça a été marqué aussi par l'histoire à ce moment-là.
Comme quoi l'histoire raconte toujours le futur et le présent parfois.
Oui, c'est toujours intéressant de se projeter pour se dire mais pourquoi telle et telle chose se passe. Souvent, on peut trouver, pas toutes les réponses, mais quelques réponses.
Alors, dans les provinces de Namur et de Luxembourg, moins ouvrières, ce mouvement rexiste va intéresser les gens dans cette époque difficile des années 30.
Voilà, c'est ça. Évidemment, il y a beaucoup moins d'ouvriers dans ces provinces-ci. Hein. Et après tout, un bon coup de pied dans la classe politique ne peut pas faire de mal. Hein. Toujours ce qu'on entend à l'époque actuelle aussi. Et donc, la Bourse ne va pas être le seul endroit où les Namurois vont se laisser haranguer. Il va aussi y avoir le grandiose Théâtre de Verdure qui va lui aussi être spectateur des discours rexistes. Alors on en a d'ailleurs parlé quand on a fait une chronique sur le Vers l'avenir. Le quotidien namurois, il va connaître un réel déclin en 36, quand on va sortir de presse un nouveau quotidien, le quotidien rexiste Pays Réel. Donc il y a vraiment un réel engouement de la population. Donc ils vont plutôt acheter le Pays Réel plutôt que le Vers l'avenir. Et il faut savoir qu'en 36, un Namurois sur 5 votera pour Rex. Ils ont fait 20% à Namur.
Son implication dans la presse et l'édition et son implication politique étaient un peu liées.
Oui, voilà, c'est ça. Il s'est servi des deux à chaque fois. Il a tout fait en même temps. Et donc voilà, Rex va faire un grand succès en 36. Avec son succès, De Grelle, il va demander de rejoindre le gouvernement. Il va même réclamer le ministère de la Justice, hein, histoire de pouvoir juger les pourris. Mais les catholiques, socialistes et libéraux vont se coaliser et le portefeuille de la justice va revenir à un autre Namurois de tendance libérale. On le connaît tous, c'est François Bovès. Alors s'il n'était pas démago, François Bovès était tout comme Léon de Grelle, un auteur et un orateur de talent. Et il n'hésitait pas à remettre les rexistes à leur place, notamment lors de leurs interpellations au Sénat. Et cela fait mouche et les gens commencent à percevoir les incohérences du mouvement rexiste et ils commencent petit à petit à s'en désintéresser. Et aussi le manque de sérieux et de charisme des compagnons de Grelle, une alliance qui va être mal comprise avec les nationalistes flamands ainsi que des flops médiatiques. Par exemple, Rex à un moment a annoncé à Bruxelles 250 000 manifestants, Il y en a eu que 5000 le jour même. Et donc, tout ça, mis bout à bout, va faire perdre de la crédibilité au mouvement. Et l'Église va aussi fortement inciter les gens à s'en éloigner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En 37, de Grelle, qui croit encore qu'il a un bel avenir, va susciter une élection partielle à Bruxelles. Tous les partis, y compris les communistes, vont se ranger derrière le premier ministre catholique qui était Paul van Zeeland. Et de Grelle va perdre cette élection avec 19% des voix. Donc il faut se dire que l'autre a fait 81%. L'autre consolation quand même pour de Grelle, lui, il avait accusé van Zeeland, donc le premier ministre, d'avoir touché illégalement de l'argent de la Banque nationale. Cette accusation, il va s'avérer qu'elle est exacte et le premier ministre va démissionner. Cependant, ça va pas raviver l'intérêt de la population pour le rexisme. Et en 1939, donc lors des prochaines élections, Rex va passer de 21 sièges à 4 seulement.
Un beau flop, hein, là.
Là, un beau flop. Le soufflet est retombé.
Voilà. Merci Richard, on se retrouve dans la troisième partie. Nous sommes dans la troisième partie, toujours en compagnie de Richard Dessart. On parle du mouvement Rexisme à Namur. Et alors, en mai 1940, la Belgique est occupée par l'Allemagne nazie. Qu'est-ce qui va se passer pour ce parti?
On l'avait dit, en 39, le soufflet Rex va retomber. Il passe de 21 sièges à 4. Et donc, l'occupation en mai 40, c'est une bonne occasion pour donner un nouveau souffle au Rexisme. Et c'est ainsi que de Grelle va s'aligner sur la politique allemande. Sauf qu'après sa défaite électorale de 39, de Grelle, il va d'abord essayer de se détacher de son image pro-allemande. Naturellement, l'Allemagne va injecter de l'argent et de l'énergie pour essayer d'allier la Belgique à sa cause. Ce sera évidemment plus facile en Flandre, où elle rallie les nationalistes flamands et anti-francophones à sa cause. Et eux, donc les nationalistes flamands, eux, ils se portaient toujours aussi bien après les élections de 39, ce qui n'était pas le cas pour Rex. Alors évidemment, ce sera plus compliqué en Wallonie, où le Rexisme, lui, est considéré comme peu fiable, vu les retournements de veste de son chef Léon de Grelle. Et si la conjoncture fait que plus de Flamands que de Wallons vont collaborer, il n'empêche que des collaborateurs, évidemment, on en trouve partout. À Liège et Charleroi, par exemple, il y a deux journaux socialistes qui sont nés sous l'occupation et qui étaient clairement pro-nazis. Donc voilà, il ne faut pas forcément essayer de toujours cataloguer dans des camps, il y en a partout.
Et les Rexis, c'était donc pas les seuls Wallons à avoir collaboré.
Non, c'est ça. Même si, bien sûr, c'était au fait les plus nombreux. Voilà, on a parlé qu'il y avait aussi des mouvements socialistes pro-nazis, mais c'était surtout les Rexistes qui vont collaborer en Wallonie. Et il faudra au fait attendre l'invasion de l'URSS par l'Allemagne pour que De Grelle soit pris enfin au sérieux par Berlin, parce que il va annoncer pouvoir rallier des volontaires pour se battre sur le front de l'Est. Alors sa première campagne de recrutement, elle va être éprouvante parce que il y aura que 200 hommes qui vont se relier à sa cause et parviendra finalement, en fin de compte, à pouvoir rallier quand même 850 volontaires, donc en majorité des Rexistes, qui vont quitter la Belgique en août 1941. Alors, petite anecdote, il y a un ami qui m'a raconté qu'il y a un de ses grands-oncles qui a rejoint les Rexistes. Alors, sa famille était très surprise parce que ça lui ressemblait pas, c'était pas les positions politiques, le sien ni celle de sa famille. Et ce dernier a expliqué qu'il pouvait être beaucoup mieux payé de ce côté-là. Voilà, évidemment, comprendre n'est pas cautionner. Mais mettre ses convictions de côté pour de l'argent, ça arrive souvent à toutes les époques. Donc voilà, il faut pas forcément croire que les gens qui étaient d'un côté le faisaient forcément par conviction. Des fois, c'est simplement l'appât du gain.
De Grelle, il a également un emblème pour représenter sa légion. C'était la croix de Bourgogne.
Voilà, c'est ça. Il avait choisi ça comme emblème. Un symbole qui n'était pas choisi au hasard parce qu'avec certains nationalistes flamands, ils partageaient le même rêve. C'était de recréer les Pays-Bas bourguignons. Alors les Pays-Bas bourguignons, c'était cette grande nation, recréer cette grande nation qui, comme au XVe siècle, inclurait les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, mais aussi la Picardie, la Lorraine et bien sûr la Bourgogne. Voilà, De Grelle voyait grand et certains se demandent s'il menait ses combats par conviction ou bien s'il rêvait d'une éventuelle carrière dans une nouvelle Europe dirigée par l'Allemagne nazie. On notera d'ailleurs qu'en novembre 1944, alors que la guerre semblait déjà pliée, il arrivera à obtenir le titre de Volksführer der Wallonen, le guide du peuple de la Wallonie, un titre symbolique qui servait à rien puisque en novembre 1944, la Wallonie était déjà libérée. Donc on voit les ambitions un peu du personnage. Alors revenons à la division SS Wallonie qui va surtout combattre sur les fronts de l'Est, dans la région de Donetsk, donc dans l'actuelle Ukraine, et dans la région de Narva, donc il y a la frontière entre l'Estonie et la Russie. À la fin de la guerre, les SS Wallons vont se battre aussi pour défendre le territoire allemand, toujours face à l'armée soviétique. Et à partir de février 1944, c'est Léon De Grelle lui-même qui est considéré comme le chef de la Légion, même si initialement, lui, il n'a aucune formation militaire, on en a parlé au début.
Vous parlez de la Légion Wallonne et de Grelle, mais il reste aussi des Rexistes en Wallonie.
Oui, c'est ça. Et la plupart du temps, ils étaient placés à des postes à responsabilité dans les grandes villes et certaines communes wallonnes. Mais voilà, leur pouvoir, il était plutôt limité. Les Allemands, en fait, leur accordaient une confiance très restreinte. Et les différents Wallons proches des Allemands étaient beaucoup moins structurés qu'en Flandre. Raison pour laquelle la Wallonie a un souvenir beaucoup plus faible de la collaboration en comparaison avec la Flandre ou même la France, qui a fait énormément de films sur le sujet. Mais naturellement, ce qui marquera très fortement les Namurois, c'est l'assassinat de François Bovesque qui a eu lieu le 1er février 1944. Donc à l'époque, il était le gouverneur de la province. Et les Rexistes ne vont jamais oublier au fait les affronts de l'époque où il était ministre de la Justice. Et d'ailleurs, Bovesque lui-même, il se savait menacé. Il s'en était confié à plusieurs de ses amis, comme par exemple le compositeur Ernest Montolier qu'on connaît. Il était compositeur chez les 40 Melons. Mais voilà, Bovesque, il voulait pas quitter le pays parce qu'il avait simplement peur qu'on s'en prenne à sa famille. Donc il préférait rester pour qu'on s'en prenne directement à lui plutôt qu'on s'en prenne à sa famille. Et le 30 janvier, le chef rexiste de Namur, Edgar Gignot, il va être assassiné par des résistants. Et au fait, l'assassinat de François Bovesque, c'est simplement la représaille à cet assassinat du chef rexiste de Namur. Il faut dire qu'évidemment, Bovesque, il était actif dans la résistance et que grâce à son réseau, il avait déjà pu échapper à plusieurs tentatives d'assassinat. Mais pas celle-ci, parce qu'en fait, l'agent de liaison était persuadé que c'était des Flamands qui allaient s'occuper de son cas. Mais les assassins, ils étaient bel et bien wallons.
Et c'est chez lui qu'il va être assassiné.
Voilà, c'est chez lui, au coin de l'avenue Cardinal Mercier et de l'avenue Léopold II, près du rond-point. On voit encore la maison, que quatre Rexistes vont lui tirer dessus. Il était 6h45 du matin. D'ailleurs, en février 2019, la maison, qui n'appartenait plus à la famille depuis longtemps, elle a été mise en vente. Et dans le journal, ils avaient montré qu'il y avait encore un impact de balle qui était visible dans le couloir où se trouvait François Bovesque en essayant de fuir. Et intéressant de savoir que les rexistes, ils s'attendaient à ce que leurs gestes ne soient pas appréciés par la population. Ainsi, ils ont distribué directement après des tracts qui menaçaient les Namurois de ne pas sortir pour lui rendre hommage. Ces consignes, elles n'ont pas du tout été appliquées et il y a eu un grand cortège qu'on a estimé à plus de 10 000 personnes qui va porter la dépouille du gouverneur jusqu'au cimetière de Belgrade. Et Boves a été considéré comme un martyr, comme un héros de Namur. Et encore maintenant, les hommages ont lieu plusieurs fois dans l'année et il reste, on va dire, comme une figure indétrônable au panthéon des Namurois. Alors en octobre 1945, donc un an et demi après l'assassinat, deux des 16 membres du commando vont être arrêtés, c'est Van Niemen et Defoe. Alors les deux vont être fusillés le 1er juin 1946 à la citadelle de Namur dans les fossés de Terra Nova. Il y a 200 Namurois qui vont être présents alors que l'exécution avait lieu à 6h du matin. Donc ils avaient envie d'y aller, pour aller à la citadelle à 6h du matin, il faut avoir envie. Et c'est un endroit où d'autres collaborateurs vont être aussi exécutés. Et au fait, sur les murs là des fossés, on voit encore de nombreux impacts de balles. Du mur qui a vu autant d'exécutions. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on se balade à la citadelle.
Et Léon de Grelle dans tout ça?
Alors, Léon de Grelle, au fait, la Belgique l'a condamné à mort par contumace. Et à ce moment-là, il va fuir vers l'Espagne de Franco. On était en avril 1945 et il a jamais été extradé d'Espagne. Il est mort à Malaga de sa belle mort, comme on dit, en 94. Il avait 87 ans. Et alors, on va terminer par une petite anecdote familiale. Après la guerre, on a parlé de procès. Donc, il y a eu des procès qui ont eu lieu pour juger les collaborateurs à Namur. Et parmi eux, il y avait un Namurois qui était germanophone, il parlait allemand, et il avait été jugé pour avoir travaillé pour les Allemands à la Werbestelle, c'est le service du travail obligatoire. Et pendant le procès, mon arrière-grand-père, qui était un grand castard revendeur de motos Sarolea, donc François Dessart, il a fait irruption dans la salle. Alors des gens croyaient que justement François, mon arrière-grand-père, allait l'enfoncer. Mais au fait, c'était le contraire, il a demandé que cesse ce cirque. Et il a affirmé que s'il savait à quel point le germanophone en question avait aidé les Namurois, les juges devraient le savoir aussi. Et il demandait s'il devait citer le nom de tous ceux à qui il avait fait disparaître les dossiers pour les empêcher de risquer leur vie au travail obligatoire. Son fils, mon grand-père, en faisait partie. Voilà, à ce moment, le germanophone en question lui avait trafiqué sa date de naissance pour qu'il soit considéré comme trop jeune pour être déporté pour le travail. Alors évidemment, on a demandé un peu de retenue à mon arrière-grand-père, mais néanmoins, le Namurois germanophone en question a été relaxé. Voilà, une anecdote pour montrer que la guerre, celle-ci comme une autre, c'est toujours une période très complexe. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Et voilà, nul ne peut préjuger de comment il agirait si sa vie ou celle de ses proches sont en jeu. Par contre, ce souvenir, ça peut permettre, espérons-le, d'éviter à de nouvelles générations de connaître ces horribles moments.
Merci Richard pour cette belle émission que vous avez fait avec nous.
Avec plaisir.
Vous nous avez appris plein de choses sur le rexisme à Namur. Une très belle histoire racontée, surtout vers la fin, quand vous nous parlez toujours des histoires qui vous impliquent finalement, parce que vous arrivez toujours à trouver un parent qui fait partie de vos histoires. Donc merci à vous et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine émission Le Bon Sens.
Avec plaisir.
Blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur. En les entendant de ces cris.